RFI 21h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir. Trois otages israéliens ont été libérés ce samedi par le Hamas contre 183 prisonniers palestiniens. Les deux camps s'accusent mutuellement de mauvais traitements envers les otages et les prisonniers. Les pays baltes ne dépendent plus de la Russie pour leur approvisionnement électrique. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie se sont raccordés aujourd'hui au réseau européen. Objectif, éviter que la Russie n'utilise les livraisons en énergie comme une arme. En France, Nicolas Sarkozy annonce qu'il a décidé de mettre entre parenthèses ses activités publiques d'ancien président et de renoncer à toute expression médiatique. Hier, il s'était vu poser un bracelet électronique après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Et puis en rugby à Twickenham, deuxième journée du tournoi des Six Nations, l'Angleterre l'a emporté face à la France, 26 à 25. Le Hamas a libéré trois Israéliens enlevés le 7 octobre 2023 en échange de 183 prisonniers palestiniens. Comme les quatre fois précédentes, la mise en scène organisée par le mouvement islamiste a choqué en Israël. Heike Schmidt.
Encadré par des combattants armés et cagoulés, Or Levi, Eli Sharabi et l'israélo-allemand Ohad Ben-Ami ont été exhibés sur un podium orné de drapeaux du Hamas avant d'être remis à la Croix-Rouge. À Tel Aviv, des centaines d'Israéliens ont suivi en direct sur un écran géant cette cinquième libération, soulagés mais aussi sidérés en voyant l'état physique inquiétant des ex-otages. Voilà ce à quoi ressemble un crime contre l'humanité, a déclaré le président Isaac Herzog, qui a appelé, je cite, le monde entier à regarder ces trois hommes affamés, au visage émacié et souffrant, en train d'être exploités pour un spectacle cynique et cruel. Le premier ministre Benjamin Netanyahou, en déplacement aux États-Unis, a lui dénoncé des images choquantes qui ne resteront pas sans réponse. Peu après, Israël a libéré 183 prisonniers palestiniens, 7 de ses ex-prisonniers. Les prisonniers ont dû être hospitalisés, raison pour laquelle le Hamas a accusé Israël de laisser mourir à petit feu les détenus palestiniens dans ses prisons.
Heike Schmidt a noté aussi que ce soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'envoi d'une délégation à Doha au Qatar pour des négociations sur la suite de la trêve. Make Europe Great Again, rendre sa grandeur à l'Europe. C'est sous ce mot d'ordre inspiré du Make America Great Again de Donald Trump qu'étaient réunis aujourd'hui à Madrid des figures de la droite nationaliste européenne, invitées par le parti espagnol Vox, le hongrois Viktor Orban, l'italien Matteo Salvini ou encore le néerlandais Geert Wilders. Et du président américain, il a beaucoup été question. Depuis son élection, le monde et l'Europe vivent une accélération de l'histoire, a affirmé Marine Le Pen, pour qui l'Union européenne semble en état de sidération. La chef de file du Rassemblement national en France a d'ailleurs concentré ses attaques sur l'Union européenne. Pendant ce temps, 250 000 personnes selon la police, 320 000 selon les organisateurs, manifestaient contre l'extrême droite à Munich, en Allemagne, à deux semaines des législatives. C'est nettement plus qu'à Berlin, dimanche dernier. Ce mouvement de protestation a été déclenché par le début du rapprochement du candidat de la CDU, candidat conservateur à la chancellerie et favori des sondages, Friedrich Merz, avec le parti d'extrême droite AfD. En Allemagne, où le chancelier Olaf Scholz a critiqué les demandes du président américain Donald Trump d'une garantie sur les terres rares ukrainiennes en échange de l'aide militaire américaine. L'Ukraine est attaquée et nous l'aidons sans que l'on demande d'être payé en retour. Cela devrait être la position de tous, a insisté le chancelier allemand. Depuis ce matin, les pays baltes ne dépendent plus de la Russie pour leur approvisionnement électrique. Ils étaient reliés au réseau russe depuis l'époque de l'URSS. Et maintenant, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie sont raccordés au réseau européen. Le mouvement avait été lancé avant la guerre en Ukraine. Il était devenu urgent depuis. Et c'est un acte de souveraineté pour ces trois anciennes républiques soviétiques, comme pour l'Union européenne. Selon Thierry Bross, spécialiste des questions énergétiques, il était l'invité de Florent Guignard à la mi-journée sur RFI.
C'était la volonté de ces pays qui étaient sous domination de l'Union soviétique de se détacher de la Russie avant la guerre. Et effectivement, c'est une grande réussite de l'Union européenne. On les a aidés et aujourd'hui, ils sont souverains, ils sont indépendants, ils rentrent dans le réseau européen. L'Ukraine l'avait fait, on l'avait fait pour l'Ukraine en plein milieu de la guerre. Là, on l'a fait sur une période un peu plus longue. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être souverain sur son énergie si on veut demain être souverain sur sa propre son propre territoire. La Russie est un rival et donc il faut être en capacité d'être indépendant de la Russie et de surveiller nos infrastructures. Malheureusement, sur la Baltique, nous avons eu des incidents. Aujourd'hui, l'OTAN a décidé depuis la mi-janvier de lancer une opération pour surveiller les infrastructures énergétiques en mer Baltique, mais vous voyez que c'est l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. Donc on n'est pas encore devenu un grand acteur complètement souverain.
Thierry Brosse avec Florent Guignard. En France, Nicolas Sarkozy annonce sur le réseau social X qu'il a décidé de mettre entre parenthèses ses activités publiques d'ancien président et de renoncer à toute expression médiatique. Hier, un bracelet électronique avait été posé sur l'ex-chef de l'État après sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Dans son message sur X, l'ancien président indique qu'il déposera avant la fin du mois un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. 13 personnes seront jugées à Paris le 4 juin pour injures racistes visant la chanteuse Aya Nakamura. Injures proférées alors qu'avait été annoncée la possible participation de la franco-malienne à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Aya Nakamura avait alors porté plainte.
RFI, la radio du monde.
En Inde, jour historique pour le BJP, le parti de Narendra Modi, qui revendique la victoire aux élections de l'Assemblée de New Delhi. Car si le parti nationaliste hindou a l'habitude de triompher tout autour de la capitale, il n'en avait pas pris le contrôle depuis 1998. Cette fois, selon les premières estimations, le BJP a emporté 47 sièges sur 70 à l'Assemblée législative. Reportage avec les militants du BJP, Léa Ojal.
Le dépouillement des résultats est à peine terminé, mais le BJP célèbre déjà sa victoire. Les militants s'enlacent devant l'un des QG de la capitale, écharpe safran autour du cou. Gaurav Arora attendait ce jour depuis longtemps.
On a attendu ce jour depuis plus de 27 ans, c'est une grande, grande victoire.
Ici, les portraits de Narendra Modi sont affichés de partout. Pour le militant Ajay Agarwal, la victoire du BJP est une prouesse politique pour le pays tout entier.
C'est un jour historique pour le BJP et je voudrais dire pour tout le pays, c'est la capitale nationale de l'Inde. L'Inde va devenir le pays le plus démocratique du monde.
Le parti de Modi a su conquérir l'électorat en promettant des mesures radicales sur l'environnement. Aarti Upadhyay est candidate du BJP à Delhi.
Le BJP a de nombreuses raisons pour lesquelles il doit gouverner ici. La première est la Yamuna. C'est une rivière très sacrée, les gens se lavent dedans. Elle est en très mauvais état et l'ancien gouvernement n'a rien fait pour la nettoyer malgré ses promesses.
À présent, le BJP dirigera 20 états sur les 28 qui composent le pays. Léa Ojal, RFI, New Delhi.
RFI, 16h08 à La Paz, direction la Bolivie où l'inflation et la crise économique pèsent sur la population. Pour y faire face, le gouvernement a décidé de suspendre totalement les exportations de viande de bœuf. Une mesure rejetée en bloc par l'opposition et par le secteur des éleveurs bovins. Nils Sabin à La Paz.
Après les exportations d'huile qui avaient été suspendues plusieurs semaines au mois de décembre, c'est maintenant la viande de bœuf bolivienne qui ne peut plus être vendue à l'étranger. Alors que les prix de cette denrée atteignaient des sommets dans le pays, le gouvernement a décidé que les exportations de viande de bœuf seraient suspendues tant que les prix ne reviendraient pas à la normale. L'annonce a provoqué un tollé chez les éleveurs bovins, Klaus Frerkin, vice-président de la Chambre d'agriculture de Santa Cruz.
Nous demandons au président qu'il change immédiatement les vice-ministres à l'origine de cette décision avant qu'il ne prenne d'autres décisions néfastes pour le porte-monnaie de la population du fait de leur amateurisme.
Pour les éleveurs, cette décision va plonger la Bolivie encore plus profondément dans la crise. C'est également le point de vue d'Eric Morón, sénateur d'opposition.
Au lieu de libérer les exportations, il les bloque. C'est le monde à l'envers. Nous allons nous retrouver sans exportation, sans production, sans dollars.
Depuis 2 ans, la Bolivie manque cruellement de dollars et les exportations de viande de bœuf représentent un marché de plus de 200 millions de dollars par an pour le pays. La crise du billet vert n'est donc pas prête de s'arrêter. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Du sport, rugby à Twickenham, 2e journée du tournoi des 6 nations. L'Angleterre a gagné face à la France, 26-25. De son côté, le Pays de Galles a concédé une 14e défaite de suite face à l'Italie samedi, aujourd'hui, au stade olympique de Rome. Score 22-15. À suivre demain l'Écosse qui reçoit l'Irlande. C'est à 14h temps universel. Enfin, sachez qu'à Lyon-sur-Mer, dans le Calvados, en France, une voiture a percuté ce matin un char de la Seconde Guerre mondiale, utilisé lors du débarquement le 6 juin 44 et positionné sur le trottoir. La conductrice était ivre, elle n'a pas été blessée, ont précisé les gendarmes qui ont ajouté. La voiture, elle, est bien endommagée, mais le char, ça va. RFI, 21h10 à Lyon-sur-Mer.